Je voudrais ouvrir avec vous la lettre de Jacques et dire peut-être que la lettre de Jacques est singulière, qu'elle est peut-être unique. D'un côté, c'est en effet, il n'y a rien de compliqué apparemment à comprendre. Je prends deux exemples à partir du tout début de la lettre. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Et puis un peu plus loin, verset 5, le chat est toujours là. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Donc c'est très simple à comprendre. Et en même temps, on a cette impression de qu'elle est comme faite par petits bouts, un peu comme un patchwork, et des petits bouts qui sont non regroupés. L'épreuve dont il est question au verset 2, eh bien on la retrouve un peu plus loin, chapitre 5, verset 11. Et puis la sagesse dont il était question au verset 5, eh bien on la retrouve elle aussi, un peu plus loin, au chapitre 3. Et si on prend l'ensemble de la lettre, c'est assez difficile d'en faire un plan tel qu'on attend un plan aujourd'hui au XXIe siècle. Hein ? D'accord. Mais c'est l'impression quand même que tout est pêle-mêle, tout est un peu côte à côte. Et je voudrais juste m'en tenir au chapitre 1 et comparer l'effort qu'ont fait plusieurs traductions françaises qui injectent des titres dans le texte qu'elles traduisent. La traduction officielle liturgique qui est une traduction catholique récente, donc qui fait trois parties. Là. Si je prends la Bible du Semeur, vous voyez que tout de suite il y en a davantage. Et si vous prenez la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, vous voyez que au moins une partie ici a été coupée en deux. Qui a raison ? Non. Puis regardez dans vos traductions, c'est pas du tout évident que vous ayez la même chose que ces propositions-là. Mais c'est comme si plusieurs fils se mêlaient, s'emmêlaient. Et on peut se demander, mais est-ce que tout est pêle-mêle, ou bien est-ce que tout est lié? On peut se demander aussi, si on veut méditer la lettre, où est-ce que je commence et où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que les choses se terminent? Mais il faut faire des choix, et du coup j'en fais un, je nous invite à lire à partir du verset 17. Je vais lire dans la traduction la Nouvelle Bible Second. Tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse. Parce qu'il en a décidé ainsi, Dieu nous a fait naître une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte des prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Et là, de mon point de vue, je regarde la façon dont c'est éclairé, parce que le haut est inhabituel. De mon point de vue, ici, c'est comme si deux fils, au moins, se mélangeaient, mêlaient. Le fil de la parole humaine, du comportement humain, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Et puis un autre fil, le fil de la parole divine. Écouter, là encore, ça fait qu'on le trouve les deux fois. Accueillir la parole, et bien sûr, plus encore, il s'agit de la mettre en pratique. Deux mentions d'écouter, et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il faut écouter au bout du compte ? Eh bien, là, donc, en tout cas, dans ce qui est affiché, c'est la parole divine, comme au verset 22, comme l'atteste le verset 21, puisque c'est la parole divine qui a été plantée dans le cœur. Et c'est elle qui peut sauver. Et c'est bien dans la parole divine qu'on est invité à conformer ses actes. Et au verset 19, en même temps, on pense plutôt à écouter quelqu'un, son prochain. C'est au prochain qu'on parle, c'est par rapport au prochain qu'on se met en colère. Il s'agit bien de ne pas se laisser emporter, de ne pas se mettre en colère. Donc de quoi s'agit-il fondamentalement ? Est-ce qu'il s'agit d'obéir à la parole divine ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir un comportement paisible, dégagé de la colère ? Et tout spécifiquement, de veiller sur ses paroles à soi. Alors évidemment, c'est les deux en même temps. Mais ce que je voudrais nous faire entendre, c'est comme si on avait là deux appels qui se faisaient entendre ensemble. Deux fils qui venaient se rejoindre, se recouper, se recouvrir, et comme se tresser ensemble. Peut-être c'est moi qui le dis, le texte ne le dit pas. Et peut-être parce qu'il est vrai que les paroles, qu'elles soient divines ou qu'elles soient humaines, chacune à leur façon, chacune avec ses propres ressources, a des effets. Que les paroles tissent la réalité, qu'elle tisse nos journées, qu'elle tisse notre intériorité, notre personnalité. On dit que les paroles s'envolent, les paroles orales, et que les écrits restent, les paroles écrites. Je crois que nous savons que ce n'est pas tout à fait vrai. Les paroles écrites s'envolent, elles aussi, elles se perdent, elles aussi. Il suffit, si c'est les paroles écrites sur notre ordinateur, il suffit d'un petit problème sur le disque dur, et comme bien sûr on avait prévu de faire des sauvegardes, mais plus tard, ben c'est mort. Il suffit que les paroles qu'on a écrites, même dans nos agendas, dans nos cahiers, dans nos journaux, si nous tenons un journal, il suffit d'un dégât des eaux, parfois. Il suffit que nous soyons dehors et il suffit d'un souffle de vent. Et ces mots que nous aurions aimé conserver, que nous aurions aimé relire, eh bien ces paroles écrites, pourtant, disparaissent. Donc même les paroles écrites disparaissent, et il se trouve aussi, et c'est bien ça, je crois, que le texte a en vue, que les paroles orales, eh bien, elles peuvent nous rester. Et parfois bien davantage au cœur qu'une parole écrite. même si elle s'envole. Je dis s'envole et le mot a presque disparu. Elles peuvent être encore comme gravées en nous. Comme chez l'enfant à qui on a dit, par exemple, qu'il n'était et qu'il ne serait qu'un bon à rien. Et l'enfant peut-être aura laissé retentir chacun de ces mots qui auront été peut-être dits sur un mouvement de colère et puis qu'on ne pensait peut-être pas, mais ils auront été dits. Mais l'enfant lui reste avec ces mots qui retentissent au fond de lui. Le jour même, le jour d'après, le lendemain et peut-être au fil des années. Bon à rien. À rien du tout. Sous nul. Ou bien vous pensez au mot de Cambronne, mais je ne le prononcerai pas. Une sous. Bon à rien. Et pour certains, des paroles comme celle-ci, c'est un exemple, peuvent prendre la au cœur la force, la présence d'une, que devrait prendre une parole d'évangile. Sauf que là, ce n'est pas une parole d'évangile. Ça prend la place d'une parole de désespoir. Ça fait office d'un destin. Bon à rien. Voilà, dit l'enfant, ce à quoi je suis bon. Donc deux fils se mêlent ici. Le fil d'abord qui est relatif à la parole toute humaine, qui est la nôtre, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce qui est en cause ici, me semble-t-il, c'est une parole spécifique, celle, la parole de celui ou de celle qui a de la peine à écouter, ou qui en fait ne s'en préoccupe pas trop, qui a de la peine à laisser du temps à l'autre pour parler, pour dire sa parole à lui. Et j'ai envie de dire, c'est un exemple, mais on l'entend à sa respiration parfois. Vous parlez et il ou elle retient son souffle tout à coup, et on sent chez lui comme une espèce de tension intérieure. Il est sur le starting block et il est prêt ou elle est prête à s'élancer. Il se dit, ou elle se dit, qu'il ou elle ne va pas vous couper. Alors il ou elle continue à écouter poliment. Mais déjà, en fait, il ou elle n'écoute plus, même avec l'intention de laisser parler. Tout en lui, tout en elle, est tendu. Tendu vers ce petit silence que vous laisserez fatalement tôt ou tard, entre deux phrases, il faut bien respirer de temps en temps. Et là, on l'entend à sa respiration, ou au reste du langage corporel, comme si on se fige. Je dis ça de l'autre, je l'entends à ma respiration, quand je me vois en tension intérieure, je dois réagir là, c'est pas possible. Ma phrase, elle est toute prête. Et il y a comme un espèce de besoin impérieux en moi qui est là. Et il suffit que l'autre laisse un petit silence j'y vais. Je dis, je l'entends à ma respiration, mais c'est les moments où c'est très difficile d'être attentif à ce qui se passe en soi. Je suis tellement pris par moi-même, en tout cas que je ne peux plus. Parce que je ne suis pas d'accord. Parce que l'autre se trompe. Parce que ce que je vais dire, c'est important. Que chacun de vous soit prompt à écouter. Ce qui est en cause, je crois, ici, c'est une parole spécifique, celle de celui ou de celle qui a de la peine à écouter. Et plus spécifique encore, plus précisément, c'est celle, on ne parle pas des autres là, c'est la parole du chrétien. La lettre s'adresse à des personnes qui s'appellent frères et sœurs. C'est celui, c'est celle-là qui veut parler. Et qui veut parler, j'attire votre attention dessus, qui veut parler au nom de la justice, au nom de la vérité, peut-être au nom de la loi. Ceux qui se souviennent du vieux, la vieille série avec Steve McQueen, au nom de la loi. Voilà, le shérif est là, faut vous faire régner l'ordre maintenant, c'est bon quoi. Au nom de la vérité, de la justice, de la loi, au nom de toutes ces nobles choses qui nous font nous lever et dont nous nous sentons tellement emplis, tellement pleins, tellement forts, au nom de Dieu, au nom de Jésus peut-être. Au nom ici, en tout cas apparemment, de la justice et de la justice de Dieu. Cette justice, elle est menacée, moi je l'ai vue, et c'est inacceptable, c'est intolérable. Alors je me lèverai, et je ferai entendre ma parole, pour remettre les choses en ordre, pour remettre les points sur les i, ça fait deux points après le moment, et les barres au t, ça fait deux barres. Et non, non, je suis pas en colère. Ou bien, oui, je suis en colère, d'accord, mais c'est une sainte colère. C'est la justice de Dieu qui est en cause. Jacques a dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est d'autant plus bouleversant au nom de la justice de Dieu que cette parole humaine, que notre parole humaine cherche à manifester, à faire sentir, à faire venir. Cette parole humaine se trouve tragiquement marquée par ce que Jacques appelle la saleté. Une autre traduction, ce qui souille. Et par la malfaçon. D'autres traductions, la méchanceté. Et ce mot m'a arrêté en le lisant dans cette traduction, la malfaisance. Un mal faire. Et c'est d'autant plus tragique que ce mal faire est là, alors que tout ce qu'on identifie en soi, c'est le bien pour lequel on parle, pour lequel on s'engage. C'est vouloir le bien, c'est faire le bien qui me porte. Et je me leurre. Et je serais tenté d'ajouter au texte biblique, donc c'est moi qui rajoute, hein, que même si je ne me leurre, oula, si je ne me leurrais pas, même quand je ne me leurrerais pas, si je ne me mets pas à l'écoute, si je ne suis pas attentif à ce qui se passe chez l'autre, je vais le dire comme ça, je ne saurais encore rien de ce qui se passe chez l'autre. Parce que l'autre est là, peut-être il dit rien, et intérieurement on dit c'est bon, il m'écoute. Qu'est-ce qui se passe en face? Peut-être l'autre est tellement démoli intérieurement qu'il ne dit plus rien. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Je ne saurais rien, même si j'avais raison, etc. Je ne saurais encore rien de la disponibilité de l'autre, de sa disponibilité à lui ou à elle, à ma parole. Je ne saurais rien du fait de... Est-ce qu'il m'écoute juste par politesse, mais en même temps, il vient peut-être juste... Il sort peut-être d'obsèques, par exemple. Et puis je ne lui ai pas posé la question, j'ai rien fait, mais lui, il a ça, ou elle, il a ça, en lui, en elle. Ou bien il est chargé d'occupation, ou bien il est juste épuisé, ou elle est épuisée. Donc je ne saurais rien de sa disponibilité. Et je ne saurais encore rien, pas grand-chose, de comment il ou elle reçoit les paroles que j'essaie de lui proposer. Et j'ai crié fort dans le micro tout à l'heure en disant « je ne suis pas en colère, mais je peux avoir l'impression d'être doux intérieurement. Et l'autre, en face, lui, avoir l'impression d'être devant un espèce de tsunami de violence, voire même de cruauté, et de cruauté au nom de Jésus. » Bon, j'en rajoute, là, je vous écrase bien. Hein. Mais là, c'est juste cette question-là, mais qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Lui seul peut me le dire. Si je lui demande... Ah, peut-être... Il y a des personnes qui vont dire tout de suite. Hein. Mais d'autres ne vont pas le dire tout de suite. Ou n'oseront même pas le dire. Parce que peut-être s'ils le disent, qu'est-ce qu'ils vont se prendre dans la tronche? S'ils osaient le dire. Mais c'est lui seul qui pourrait me le dire. C'est elle seule qui pourrait me dire, si je l'écoute, et si je lui donne suffisamment confiance aussi pour dire là ce qu'il voudrait peut-être dire. Donc au fil de cette parole humaine, au bout du fil de cette parole humaine, se fait entendre une autre parole de Jacques qui est juste au bout de ce que nous avons lu et que je n'ai pas lu jusque-là. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, j'ai envie de vous dire dans le contexte, si quelqu'un se considère comme un chrétien, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. La traduction meurt traduit, sa religion ne vaut rien. Donc, écoutons. La parole humaine, le fil de la parole humaine. Alors au fil de cette parole humaine se conjugue avec ce fil, se tresse un autre fil, le fil d'une autre parole, une parole divine qui se tresse, qui se trame avec la première, qui se trame à la première. Et j'ai été frappé de constater qu'il y a comme trois moments dans ce texte pour en parler. Ce fil de la parole divine se fait entendre à ceux qui ont cru que leur vie tient à ce fil. Dieu nous a fait naître, premier temps, par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Souviens-toi, au commencement du monde, dans le récit biblique, c'est une parole de Dieu qui appelle à l'être. C'est une parole de Dieu qui a fait le monde et qui a fait l'homme, qui fait être le monde, qui fait être l'homme. Autant Gaïa, la terre, qu'Adam, l'homme. Eh bien, entend à présent, comme le pendant dans le Nouveau Testament, au commencement du monde nouveau, avec la venue du nouvel Adam, qui est Jésus, eh bien, nouvelle création, nouvelle humanité, nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle création, traduction très littérale. au sein du vieux monde, de ce que la Bible appelle le Nouveau Testament, appelle le vieux monde, c'est-à-dire notre monde, voilà. Au sein de ce que la Bible appelle le vieil homme, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de moi, qui est en moi et qui est en rejet de Dieu, en révolte avant, voilà, en résistance à Dieu, au sein de ce vieux monde, de ce vieil homme, de cette vieille femme, quelque chose est en train de se produire, quelque chose de nouveau est en train d'advenir, quelque chose de nouveau est en train de naître, de germer, et laisse pressentir une nouveauté inédite, sans pareil. Le chrétien ne vit, alors vous ne le voyez pas, moi je le vois très bien sur la projection, que d'un don, un présent. Le chrétien ne vit que d'une parole qui lui a été donnée, qui a été plantée. Un semeur sorti pour semer. Une parole a été semée, dit l'Évangile, ensemencée. Le semeur est parti dans le champ et il a jeté. Il a jeté les graines. Elles sont tombées, bien les unes sur le chemin. Les autres, ah, ça c'est sur un sol rocailleux. Un peu comme ici, il n'y a pas de roc, mais ça fait un peu, ça fera le même effet au bout du compte. Les autres sont tombées parmi des ronces. Et puis d'autres, enfin, sont tombées sur la bonne terre. Et certaines germes commencent à paraître. Au commencement de notre vie chrétienne était la parole. C'est le premier temps, et la vie chrétienne tient à ce fil de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute-la. Et ce fil nous donne aussi ici à entendre que notre vie ne poursuivra son fil que dans la mesure où nous lui resterons attentifs. Car de même que c'était à la parole de l'autre homme, de l'autre femme, du prochain, de l'autre, qu'il s'agissait d'être attentif, premier fil, c'est à la parole de vérité, à la parole de Dieu, qu'il s'agit aussi d'être attentif. Et j'ai été frappé de cette formule du verset 21, qui m'a beaucoup intrigué, la parole, dit-on, a été plantée en vous, en nous. Donc elle est plantée en nous. Donc c'est bon. Oui, c'est bon, c'est ce que je me suis dit. C'est comme si tout était dit. C'est comme si tout était fait. Mais regardez ce qu'il nous dit. Il s'agit encore de l'accueillir. Comme si elle restait encore extérieure. Comme si elle restait encore étrangère, à distance. Est-ce qu'on accueille quelque chose qu'on a déjà reçu? Comme si elle n'était pas déjà là. Ou plutôt, probablement, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'on peut harmoniser les deux choses, comme s'il s'agissait de lui laisser la place, de l'accueillir, dit le texte, avec douceur. La Bible du Semeur traduit avec humilité. Et probablement, dans le contexte, tout particulièrement, mais pas que, au moment où l'on sera tout à se porter pour énoncer aux autres la justice de Dieu, voilà ce que tu dois faire. Tant cette parole de Dieu qui nous a fait naître et qui aura peut-être suscité notre joie, tant elle aura, tout en étant en nous, tant elle aura de la peine à germer, à porter son fruit. Tant cette parole de Dieu, quand même, c'est Dieu. Tant cette parole paraît comme vulnérable, si nous ne la laissons pas prendre racine, si nous ne lui accordons pas au bout du compte au moins la même attention que nous accordons à l'autre, à savoir elle ne prendra pas racine si nous lui accordons la même attention que le plus souvent, enfin qu'assez souvent, que de temps en temps au moins, nous accordons à l'autre, c'est-à-dire cette espèce d'attention que nous avons quand nous prenons notre souffle parce que nous avons quelque chose à dire et puis l'autre continue à parler, mais de toute façon on a quelque chose à dire et puis on a ça en tête. Si nous accordons la même attention à la parole de Dieu que nous accordons à l'autre. Je t'entends, mais en fait je t'écoute pas, quoi. c'est toi qui vas m'écouter. Je te vois, mais maintenant c'est à toi de voir. C'est à toi de me voir et c'est à toi de m'entendre. Je suis tenté, là encore je m'écarte de ce que le texte dit explicitement. Donc, voilà. Et peut-être avant je me suis écarté sans m'en rendre compte, mais bon, là je m'écarte de manière très consciente. Voilà. Je suis tenté de penser que nous nous comportons en fait à peu près partout de la même façon. Je vais le dire de manière de décoffrage, mais si on est pénible au bureau, on est pénible à la maison. Et si on est réciproquement, on est toujours le même, quelque part. Et je suis tenté de penser que celui qui écoute, celui ou celle qui écoute, écoute à peu près partout. Que celui ou celle qui n'écoute pas, n'écoute pas, ni les autres, ni Dieu. Que celui qui écoute l'autre écoutera la parole divine. Que celui qui écoute la parole divine écoutera les autres. Je prends les deux pôles opposés, évidemment, mais ça permet de clarifier les choses. Celui qui n'écoute pas la parole divine n'écoutera pas les autres, je crois. Et celui qui n'écoutera pas les autres n'écoutera pas probablement la parole divine. La Bible ne dit pas ça explicitement, je vous le propose. En même temps, je l'entends dire, c'est ce qui m'amène à penser et à dire ça. La Bible nous dit, ne parle pas de l'écoute, mais elle nous parle de l'amour. Et dans la première lettre de Jean, nous lisons la chose suivante. Là, j'ai dû rater une diapo. Voilà. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son prochain, son frère, c'est un menteur. S'il n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et je me dis que si je remplace aimer par écouter, c'est peut-être pas très éloigné de ce qui est juste. Quoi qu'il en soit, pour revenir plus directement au texte, la parole de Dieu, elle est comme vulnérable. Quand elle se voit emportée par notre ferveur même, et allez, que je te tire, que je te pousse, comme je tirerais ou comme je pousserais une plante pour la faire pousser, de même aussi, la parole de Dieu est comme vulnérable quand elle se voit noyée par notre souci des choses du monde. Elle se voit vulnérable aussi quand nous sommes noyés, emportés, préoccupés par l'attrait des richesses. Vivement que le culte termine, je pourrais passer une commande sur Amazon parce qu'il y a un truc que j'ai vu ce matin, il ne faut absolument pas que quelqu'un d'autre me le grille sous le nez. C'est le deuxième temps. Chrétien, hier, la parole de Dieu t'a fait naître. Aujourd'hui, c'est elle qui te fera vivre, qui te fera grandir. À la mesure de ton écoute et à la mesure de ta mise en pratique. Hier, aujourd'hui, nous sommes au deuxième temps. Et il me reste le troisième temps, c'est demain, quand nous nous verrons, ou pas, au bout du fil, de ce fil de la parole de Dieu. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Qui peut. On n'est pas encore là, on n'est pas au bout. Au bout du fil de notre vie, en tout cas le fil de notre vie humaine va se casser et là nous ne répondrons plus. Et Jacques fait entendre à ses frères et sœurs, et il nous fait entendre aujourd'hui, qu'ils ne sont pas... Merci à la télécommande d'avoir passé la diapo suivante. Qu'ils ne sont pas, que nous ne sommes pas encore sauvés. Et c'est peut-être un risque évangélique de dire, ouais, c'est biblique. dire oui, j'ai cru au Seigneur et je suis sauvé, c'est bon. Mais là où ça va plus, c'est bon, et puis je m'en préoccupe plus, je fais plus rien, maintenant c'est trop cool, j'attends la fin de toute façon, c'est bon. Ben, Jacques nous dit que ça ne viendra qu'au bout du fil. La parole qui peut nous sauver. Dans la mesure où nous ne perdrons pas le fil de la parole, et dans la mesure où nous garderons ce fil bien en main, bien au cœur, bien dans la mesure de l'accueil, dans la mesure de l'écoute, dans la mesure de l'obéissance, dans la mesure d'un demeurer dans la parole. L'écoute de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de l'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire aime le Seigneur ton Dieu. Écoute le Seigneur ton Dieu. Obéis au Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain. Aime ton prochain. Écoute. Alors tu seras heureux dans ta pratique même. Que Dieu vous porte, nous porte à l'écouter, à l'aimer, à lui obéir, à nous écouter les uns les autres, à nous aimer, à nous respecter les uns les autres. Et puis, c'est pas qu'en interne, ça concerne aussi nos relations, nos amis, nos proches, nos prochains.